Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors pour commenter cette actualité, je suis aujourd'hui en compagnie du pilier de cette émission, Jean-François Mignard.
Le plus jeune, je jouais des talonneurs.
Voilà, de la Ligue des droits de l'homme. De Florence Ginesti, avocate, qui suit de près la chose publique et politique et très investie dans la vie sociale de notre belle cité, on va le dire comme ça, hein.
c'est très pas mal.
Aimable,
à la fois pour la vie sociale très aimable et pour la belle cité.
Voilà.
Très aimable à toi.
Et alors, nous allons parler de quoi ? Nous allons parler de trois sujets principaux. Nous allons parler de l'instrumentalisation des JO par un dictateur aux yeux bridés. Nous allons parler de l'inquiétant Monsieur Poutine. Et nous serons rejoints par notre correspondante russe, tout à l'heure, par téléphone, bien sûr, et nous parlerons également de manifestations, de désarroi, autrement dit, du convoi dit de la liberté, un mot peut-être un peu fort pour ces gens et un
ou
peu
des libertés,
galvaudé, ou des libertés, voilà, on ne sait plus trop comment le dire. Voilà, c'est ça va mieux, c'est parti, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Tiens, on parlait de liberté, une citation. La liberté, c'est le droit de pouvoir dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et c'est de... Oh ben moi, c'est facile, je l'ai sous les yeux. Donc...
Oui, oui,
c'est le quiz, en fait.
Voilà,
c'est un quiz.
On se fait coller, c'est pour d'entrée donnée.
Voilà,
j'ai
l'impression. Ouais. C'est un style Bourdin, les quiz à la Bourdin.
Voilà,
c'est ça, j'espère qu'il n'y a pas le respect.
C'est de qui, monsieur Jacques ?
Moi, je ne suis pas comme monsieur Bourdin. Florence, vous ne risquez rien pour votre intégrité. C'est de George Orwell.
Ah ben, on y est en plein, là.
On est très loin de 1984.
Oui, mais bon,
on l'a dépassé.
Hein. Oh,
ouais, il n'avait pas tout imaginé. Alors, commençons par l'instrumentalisation des JO par un dictateur. Et donc, pour introduire le propos, je vais reprendre ce que j'ai déjà écrit, que peut-être certains ont lu. C'était mon édito de la semaine dernière. Alors, ça y est, je disais, tout le monde en parle, les chaînes de télévision sont prêtes à nous en inonder, les Jeux Olympiques d'hiver commencent. Bonne chose, pourrait-on se dire, enfin une activité apaisée réunissant tous les pays du monde, certes à part que les 10 Jeux vont se dérouler en Chine, dans les environs de Pékin. Voilà, sous la férule d'un président possiblement à vie, puisque maintenant la Constitution le lui permet, un pays totalement sous la domination d'un très efficace appareil étatique et policier, façonné par les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, lesquelles permettent au régime d'exercer une cybersurveillance exacerbée de la population, rappelant irrésistiblement, vous voyez, on y était, l'entité totalitaire décrite par Orwell dans son fameux roman 1984. Un régime qui embrigade et verrouille complètement sa population, notamment par une totale maîtrise des médias, de l'information et l'accès à celles provenant de l'étranger. Un régime qui a mis le Tibet en coupe réglée, qui a organisé un génocide des populations ouïghours qui est toujours en cours, voire d'ailleurs l'adoption en France par l'Assemblée nationale le jeudi 20 janvier d'une résolution dénonçant ce génocide des Ouïghours par la Chine. Au passage, vous pourrez regarder les partis politiques qui l'ont voté et ceux qui se sont abstenus ou qui ont voté contre, ça vous donnera quelques idées. Et la menace depuis longtemps d'envahir Taïwan, les multiples provocations et survols de son espace aérien par ses avions de chasse il y a quelques jours, je crois que c'était hier d'ailleurs, par un avion civil, qui a violé, parle toujours de la Chine, les engagements pris avec la Grande-Bretagne lors de la restitution de Hong Kong et y a brisé brutalement toute contestation et tentative de vie démocratique. La liste pourrait s'allonger si on sonnait à peine d'examiner les pratiques économiques intrusives, voire agressives, dont l'empire dit du milieu, ce qui déjà a une signification, dont l'empire du milieu dit j'use à l'égard de différents pays de par le monde, notamment afin de se procurer des matières premières dont il a un pressant besoin. Alors les Jeux constituent pour la Chine et pour le dirigeant M. Xi une vitrine permettant d'étaler sa puissance et de mener une opération de communication internationale, voilà, voire peut-être même nationale. L'occasion de promouvoir son système politique dont elle voudrait assurer la supériorité, un régime que le Parti communiste chinois appelle la démocratie socialiste ou populaire. Des termes, vous le comprenez à l'évidence, vides de sens pour qui veut bien examiner sérieusement la réalité. Et pour couronner le tout, ces Jeux vont se dérouler à proximité de Pékin, dans une région dont la sécheresse hivernale est bien connue. Autrement dit, ils dépendront entièrement des 300 canons à neige et des 100 générateurs de neige pour un coût tonneau estimé, excusez du peu, à 185 millions de litres. Bref, on marche sur la tête. Organiser des JO, et c'est une citation, dans cette région est une aberration, c'est irresponsable, a dit la géographe Carmen de Jong de l'Université de Strasbourg. Et elle termine en disant, on pourrait aussi faire les JO sur la Lune ou sur Mars. Mais pourquoi pas, ça produira peut-être un jour, autrement vont les choses. Et c'est donc dans ce beau pays, respectueux de ses concitoyens, de la Terre, des droits de l'homme et des autres pays composant notre planète, que vont se précipiter athlètes, alors on peut les comprendre un tout petit peu, et responsables politiques de tous les pays, momentanément affectés d'une cécité totale, autrement appelée hypocrisie, voire bassesse ou manque de fermeté de caractère, mais qualifiée de réalisme diplomatique et surtout économique par ceux qui tentent de nous gouverner. Que voulez-vous, il faut bien sauver la face, comme on dit en Chine. Les Jeux olympiques d'hiver ont commencé, ça glisse au pays des merveilles. Sur cette question, on va laisser la parole à notre amie Florence Ginesti.
Bien entendu.
Bon, mais vous êtes tout à fait aimable. Bon, écoute, moi, bien sûr, je partage l'esprit de ton éditorial, mais il me semble quand même qu'on n'est pas dans la situation des JO de 2008. J'ai quand même l'impression que l'étoile de la Chine a un peu pâli, justement par rapport à tout ce que tu évoquais, c'est-à-dire, bon... Les problèmes internationaux, etc. Mais également, il y a la question du virus, dont vous ne parlez pas, mais qui effectivement pose question, puisqu'on ne sait toujours pas quelle est l'origine de ce virus.
C'est donc, le pangolin, si nous le savons, c'est le pangolin.
Voilà,
c'est
donc la photo pangolin. C'est le pangolin, bon, peut-être, mais enfin, il y a quand même beaucoup de doutes à ce sujet. Donc, je pense que quand même, l'étoile de la Chine a pâli. S'agissant de l'instrumentalisation, bon, elle existe toujours.
C'est une étoile jaune.
C'est une étoile jaune qui est en train de...
Il s'agit de la Chine.
Qui pâlit. En même temps, je crois quand même qu'il y a une prise de conscience au niveau international, notamment des Américains et des Européens par rapport à la puissance chinoise. Il y a une forme de réalisme qui est quand même apparue, notamment chez les Allemands qui avaient des liens extrêmement forts avec la Chine, puisqu'on nous expliquait que Mme Merkel passait sa vie en Chine pour des voyages multiples et variés, parce qu'effectivement l'économie allemande...
Les machines-outils, était très liée... machines-outils allemandes.
Oui, après, bon, c'est aussi leur force. Hein. Mais bon, donc c'est vrai que... Donc je crois qu'il y a quand même une prise de conscience chez les Français, chez les Américains. Ça avait commencé un peu chez Obama. Paradoxalement, Trump avait aussi agi sur ce terrain-là. Donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Et en ce qui concerne ces Jeux eux-mêmes, on n'est pas du tout dans l'esprit de 2008. Moi, je me souviens, en 2008, il y avait quand même une forme de... Bon, tout le monde trouvait que c'était magnifique. Enfin, tout le monde s'extasiait un petit peu. Et puis, je pense que sur le plan des Occidentaux, les gens espéraient que la Chine allait un petit peu se démocratiser. Enfin, il y avait quand même un élan positif. Or, je crois qu'on n'est plus du tout là-dedans. D'ailleurs, bon, honnêtement, ces Jeux, on en parle, certes, mais pas énormément. Donc je pense que les choses sont un peu en train de changer. Et pour terminer, sur le plan économique, je pense que la Chine est quand même dans une situation qui n'est pas aussi bonne que celle dans laquelle elle était peut-être en 2008. La crise sanitaire l'a impactée comme tout le monde. Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas les chiffres, mais enfin, il semblerait quand même que son PIB a chuté, que sa croissance chute. Parce que comme ils ont adopté la politique de fermer complètement le pays, il y a quand même un problème sur les échanges économiques. Donc moi, je serais plus, plus nuancée que votre éditorial. Voilà.
Jean-François Mignard.
Oui. Alors, pour filer la métaphore orwellienne, moi, il y a bien sûr 1984 par rapport au fonctionnement de la Chine au regard de ses appareils de surveillance, mais... Après tout, hein, regardons bien de après cette affaire-là, parce que ça commence à nous toucher un peu quand même, hein, la surveillance comme ça, civile. Mais moi, je filerais plutôt... Fait, ça m'évoque aussi la ferme des animaux d'Orwell. Hein, ça m'évoque ce roman-là aussi, avec ces personnages, alors bon, cette espèce de fable politique qu'avait fait Orwell, et qui montre une ferme complètement désemparée et un conflit entre des animaux avec des rôles qui sont des rôles relativement répartis. On a eu droit quand même, sur ces Jeux Olympiques, à une magnifique simulacre de quelque chose de l'ordre de la démocratie, et de volonté de marquer le coup au nom d'un certain nombre de principes. On a beaucoup parlé de droits de l'homme. Ça venait de personnes qui étaient nettement moins sourcilleuses sur cette question-là concernant d'autres pays. Bref, j'ai un peu de mal à prendre au sérieux cette affaire-là, d'autant que je ne regarde pas. Je dois avouer que Panem et Tsirkenses, j'ai beaucoup pratiqué le sport étant jeune.
Et d'ailleurs, ce corps superbe qui est en face de moi le prouve abondamment.
Bien entendu, et c'est déplorable que vous n'ayez que le son. Mais j'ai pu avoir les différents aspects. Voilà, c'est les Chinois, je parle. Alors, c'est différent effectivement de 2008. Les gens se sont rendus compte, si tant est qu'ils avaient besoin de s'en rendre compte. Je pense qu'en 2008 déjà, on était confronté à un pays qui avait une espèce d'idéologie communiste pragmatique. Et vous connaissez la fameuse phrase, hein, un chat n'a pas besoin d'être ni blanc ni noir pourvu qu'il attrape des souris.
Ça, c'était le président Mao, le regretté président Mao.
Voilà, hein, et c'est dans cette c'était pas le président Mao, mais enfin, c'était un de ses acolytes. On est face à la Chine, j'imagine, a très peu est très peu sensible à l'image de marque qu'elle peut avoir à l'extérieur, pour autant qu'elle puisse continuer à commercer. Hein, puisque on a déjà évoqué sur cette antenne ici, il me semble que raisonner par rapport à la Chine comme on peut raisonner avec d'autres par rapport à d'autres pays n'est pas forcément pertinent. Puisque là, pour le coup, par exemple, la Chine n'a aucune vision impérialiste, hein, en termes politiques.
En termes politiques, mais pas en termes économiques.
En termes de stratégie politique. C'est lié, hein, elle est pour le coup, oui, mais elle est absolument liée. Mais elle n'a pas besoin d'avoir aujourd'hui de stratégie politique impérialiste, puisqu'elle est en train de développer des choses avec un relatif succès.
Elle est sur le temps long.
Voilà, elle est avec un relatif succès aujourd'hui, puisque les nouvelles routes de la soie, alors avec des hauts et des bas, sont en train de se développer. Et ce que les partenaires de la Chine sont en train de faire, c'est essayer de voir comment eux peuvent se positionner par rapport à cette espèce de redistribution géopolitique par l'économie et le commerce. Voilà, hein, alors que souvent, on a tendance à parler effectivement par quelque chose de l'ordre du politique. Je pense par ailleurs que, et je partage ce qui a été dit, hein, le modèle chinois se fatigue, le modèle des Jeux Olympiques se fatigue peut-être un petit peu
surtout
aussi.
Surtout des Jeux Olympiques d'hiver, parce que globalement, si on ne les fait plus que dans des pays qui ont de la neige en hiver, ça va réduire très sérieusement.
Bien sûr, mais qui croyait encore, à part les gens crédules qui passent leur temps devant la télé, parce qu'au passage, quand même, ce matin...
Tous les résidents d'Orpea.
Oui, ce matin, j'ai eu la comme je prépare scrupuleusement, ouais, sur l'injonction, hein, absolument terrible de Jacques, les émissions, je suis allé regarder un petit peu sur les journaux, ouais, et tout. On parle des Jeux Olympiques. Oui. Le Monde, journal sérieux s'il en est, il y a une série d'articles qui se développent. Et c'est comme si... Alors, ça me donne une impression un peu désuète, comme si les gens y croyaient un petit peu encore. Comme...
Ah, mais on fait ça, tout le monde y croit, il fait semblant, au moins,
oui,
il fait semblant
d'y croire. Les images,
ne veut pas voir ce qui se passe
en
Chine.
Je pense que les images... Enfin, alors après, bon, j'imagine qu'elles sont vraies, mais les images... de cette espèce de tremplin,
oui, avec derrière les
avec des cheminées, était,
oui,
franchement dévastateur. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si c'est... Alors après, on peut toujours se méfier des images. Ah,
les Chinois en sont très fiers, parce
mais
que pour eux, c'est
franchement,
une
c'est dévastateur.
Bien sûr, bien sûr. Mais qui croit encore que les Jeux Olympiques d'hiver ont besoin de la neige pour la neige, entre guillemets, naturelle. Vous savez, pour les sociologues, dès qu'on y entend de naturel, ils pensent que c'est culturel. Mais ça soit quelque chose qui ait une pertinence quelconque. Je veux dire, le sport n'a plus rien à voir avec quelque quelque chose dehors de la réalité, en dehors du fait que c'est une manipulation idéologique et du commerce. Au passage, petite anecdote, j'aurais pu l'utiliser dans les brèves, le Biarritz Olympique, je ne sais pas si vous le savez, va quitter Biarritz, hein, c'est un club de rugby, pour aller s'installer à Paris, en gardant le nom Biarritz Olympique, mais en étant encore dans le championnat. Voilà.
Non, c'est la dématérialisation.
Exactement. Hein, c'est ça, et ça ne pose problème quasiment à personne, parce qu'il y a un conflit avec la mairie de Biarritz. Voilà, hein, tout simplement parce que c'est quand même cohérent avec le modèle économique.
Le télétravail, les dématérialisations.
Non, mais c'est le modèle, je veux dire, c'est cohérent avec le modèle économique qui est devenu l'entreprise de spectacle, qui est devenu le sport. Ce que sont les Jeux Olympiques, voilà.
On n'a pas dit du mal, enfin on n'a pas dit un mot, donc on n'a pas pu en dire du mal, mais je vais peut-être m'y laisser aller, du comité olympique,
qui est composé,
hasardeux, pas pour eux. Il y a beaucoup de corruption quand même dans ce milieu, beaucoup de choses, alors vrai ou pas vrai, mais on en entend beaucoup. On va parler peut-être un jour aussi de la coupe de ballon rond là-bas au Qatar, c'est à peu près la même chose.
Je voulais l'évoquer.
Là où il semble-t-il, il y a quand même eu effectivement
quelques morts déjà dans les travaux, plus le fait qu'on va faire on va faire ça en climatisant les stades. Je veux dire, on marche sur la tête, hein, pour le, mais c'est sportivement, c'est quand même une performance de marcher sur la tête. Juste pour dire que de la même manière que le modèle des Jeux Olympiques se fatigue, l'espèce de représentation ou de fiction, alors je ne veux pas faire le Cassane, qui accompagnait cette affaire-là, c'est-à-dire la capacité qu'aurait le sport de compétition, là pour le coup on est dans le sport de compétition, spectacle et tout, de dénouer des enjeux qui sont des enjeux politiques. Ça renvoie à la diplomatie dite du ping-pong à l'époque où, hein, rappelez-vous, sous Nixon.
De l'Afrique du Sud avec le rugby, par exemple.
Voilà, on s'était rapproché, les États-Unis et la Chine avaient pu dénouer les choses conflictuelles. Parce qu'effectivement, il y avait des tournois de ping-pong, des choses comme ça. Tout ça, là, est en train de s'effilocher d'une certaine manière. Alors, tant que les gens regardent la télé les Jeux Olympiques, on peut continuer à laisser croire ou imaginer que ça a une efficacité, performatoire. C'est-à-dire que parce qu'on le dit, ça va le faire. Mais c'est... je pense qu'on est certainement là comme ailleurs, une espèce de bout de cycle, quoi, voilà.
Moi, juste pour amener un élément supplémentaire, je pense qu'il y a quand même un problème avec la Chine par rapport au modèle que ça représente. Et c'est un peu inquiétant, et c'est pareil, on en reparlera pour la Russie, c'est que finalement, dans les pays démocratiques, on s'aperçoit qu'il y a un affaiblissement du rapport à la démocratie chez les populations. Il y a des sondages qui ont paru là, qui sont quand même assez inquiétants. Et je disais tout à l'heure que l'étoile chinoise faiblit, mais malheureusement, ce type de modèle autocratique et en même temps avec une forme de fonctionnement capitaliste, mais extrêmement contrôlé, où on fait le bonheur des gens avec une forme de sécurité, l'air de rien. Je crois que certains citoyens sont assez intéressés. Enfin, je dirais, ça peut représenter un intérêt pour certains citoyens. Moi, je ramène à des sondages. Il y a des sondages qui ont paru il n'y a pas très longtemps là-dessus. Et le pourcentage de personnes, je crois que c'était, enfin, je ne vais pas dire des bêtises, mais c'était à peu près 40% de gens qui disaient qu'un système autocratique ne les dérangeait pas. Et je pense qu'en ce sens-là, le modèle chinois, même s'il a pâli, peut-être même dans... mais c'est aussi ça. Il y a une demande chez certains de sécurité et en même temps de consommation. Et ils sont arrivés à finir quelque chose qui est extraordinaire chez eux, c'est-à-dire on lit le comportement, c'est-à-dire on a des points quand on a un bon comportement. On gagne de l'argent dans les magasins.
On a des performances civiques, ça s'appelle.
Bon, et sans vouloir sombrer, ça nous reliera à l'autre point qu'on abordera tout à l'heure. Le Covid a permis de démontrer qu'il y avait quand même des petits problèmes en matière de liberté publique.
Oui, sachant que c'est à la périphérie de la question des Jeux Olympiques, mais c'est bien sur la question qui est la question du modèle chinois, celui que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ce qui se passe en Chine. Peut être d'un avant-goût de ce qui est en train de se développer chez nous, hein, parce que.
Mais quand vous parliez d'Orwell, je pense que ça migre dans les sociétés démocratiques.
Et on achète la sécurité contre la liberté, ce vieux.
Oui. Moi, c'est pour ça qu'en ce sens-là, je pense qu'on ne peut pas rayer d'un trait de plume cette problématique-là de la Chine en disant « bon, c'est répulsif, ce n'est pas que répulsif oui, ». Et ils mettent en place des systèmes qui finalement migrent dans nos... Enfin, à petite échelle, mais dans nos systèmes démocratiques.
C'est pour ça qu'il me...
C'est inquiétant.
Ce que j'essayais de lire tout à l'heure, c'était effectivement que le modèle chinois n'est pas qu'un modèle politique, c'est un modèle économique qui passe par autre chose que des sanctions, qu'un discours, mais qui se diffuse par ailleurs. Voilà. Je suis pas sûr que ça soit extrêmement performant, par exemple, le boycott politique des Jeux Olympiques, parce que je suis pas sûr que les...
Ils s'en fichent, c'est pas leur problème.
Ça n'a aucun effet, d'autant moins que le boycott, par définition, sera suivi par certains et pas par d'autres, on l'a vu.
À destination des populations occidentales, mais vis-à-vis des Chinois et de la population chinoise, ça n'a aucun intérêt.
Ça n'aura strictement aucun effet, surtout qu'ils sont quand même gavés par... leurs médias qui comme l'on dirait à Toulouse, les enfument à longueur de journée.
Oui, voilà.
Bien, écoutez, sur ce sujet, il y a quand même quelque chose de sûr, c'est que M. Xi voudrait voir son modèle s'imposer un peu partout sur le monde, et c'est ce qui l'intéresse le plus. Nous allons passer au deuxième sujet, et peut-être si la magie du téléphone fonctionne, nous allons pouvoir appeler Moscou. On va s'y essayer, Jean-François.
Oui. Alors, je peux. Alors, on a quelques problèmes techniques. Je peux l'appeler directement
ou si ça passe par le. Mais il faut passer par l'international, je le dis, pour notre technicienne qui va s'y essayer. En attendant, on va quand même un peu se poser la question de savoir qui c'est qui dirige au Kremlin. Parce que, il y a monsieur Poutine, mais la grande question, est-ce que c'est un homme seul ? Ou est-ce que c'est un homme qui est entouré, qui est conseillé ? Est-ce que la décision est collégiale ou n'est pas collégiale ? Et en tout cas, un seul homme, c'est Vladimir Poutine, est aux commandes. Mais la plupart du temps, il ne prend pas la parole. Il continue de souffler un peu le chaud et le froid sur ses tensions avec l'Ouest. C'est un ex-agent du KGB, l'oublions pas. Et le silence est devenu pour lui une arme tactique. Il donne toujours l'impression de ne pas agir sur la pression pour mieux orchestrer le coup d'après. Les capitales occidentales ne sont pas les seules à naviguer à vue sur les intentions de Moscou et sur les processus de décision du président qui a quand même 70 ans en octobre prochain, qui est au pouvoir depuis un quart de siècle. On peut penser que les Russes s'interrogent aussi sur son fonctionnement. Au-delà de ses déclarations, au-delà de ses oukases, quel est véritablement son mode de décision ? On sait que tout cela est pris dans le grand secret du Kremlin, mais il y a aussi là-dedans des clans aux intérêts divers. Et il agit peut-être un peu en équilibriste en cherchant un compromis entre ses élites, parce qu'on a beau être un dictateur, il faut quand même avoir quelques appuis sur les uns et sur les autres. Donc certains affirment que le mode serait plus vertical. Alors je crois qu'on a en ligne, ça y est, on a en ligne notre... Allô.
Bonjour.
Ah bonjour, elle est là. Alors je résume un peu ce que j'ai dit avant que vous arriviez sur l'antenne. Et merci de nous rejoindre. Quelle heure est-il à Moscou ?
Il est 13h20.
13h20. Donc, et il fait froid, on a toujours l'impression que Moscou est mangé par la neige et les glaces, est-ce que c'est la vérité ?
Non,
le réchauffement.
La neige disparaît petit à petit, parce que les températures tournent autour de zéro, alors ça va.
Ça va.
Fait acceptable.
Bon, vu de Toulouse, ça nous paraît glacial, mais...
C'est le réchauffement climatique.
Donc j'avais commencé à introduire ce sujet que j'avais intitulé « L'inquiétant Monsieur Poutine » en me demandant comment était... Monsieur Poutine procédait pour réfléchir, pour agir. Autrement dit, est-ce qu'il gouverne seul ? Est-ce qu'il gouverne avec une décision collégiale ? Est-ce que c'est un dictateur entouré juste d'un petit groupe de personnes extrêmement réduit ? Ça pourrait nous rappeler d'ailleurs, nous ramener un peu en France, hein, Nous, on n'a pas un dictateur, mais on a un président qui est...
Donc, on non, a un mais, roi, nous, on a un roi.
Il dirige quand même dans la grande solitude, avec quelques personnes de confiance, mais très réduites. Alors, est-ce que c'est le même processus de décision à Moscou?
Je pense que vous avez tout à fait raison. Il me semble qu'il y a un tout petit comité qui est présidé par Monsieur le Président. Alors, et ça se passe comme ça. Toutes les décisions sont prises par ce petit comité, par ce petit groupe de personnes, c'est tout.
On parle de Sergueï Lavrov, Sergueï Shoigu, je prononce peut-être pas bien,
oui,
et Dimitri Kozak.
Oui,
il est plus fidèle. Alors, je vais passer la... D'abord, je ne vous ai pas présenté parce que je voulais laisser le soin à Jean-François Mignard de le faire. Et donc, Jean-François...
Oui, donc on accueille, comme on le fait quelquefois, Vika, qui est Vika Nikolaeva, qui est moscovite et qui est professeur de français. On le reconnaîtra à sa manière de parler notre belle langue infiniment mieux que moi, je ne parle la sienne. Voilà. On voulait évoquer aussi la thématique qui était la thématique de l'Ukraine et de la crise, entre guillemets, ukrainienne. Et en vous demandant comment ça se vit, comment ça se parle, ou ça ne se vit pas, ou ça ne se parle pas, je ne sais pas, aujourd'hui, au quotidien en Russie. Dans la mesure où on a quand même, nous, une actualité, un agenda un peu fort là-dessus. Voilà, quelle est l'atmosphère sur cette question-là, dans les rues, dans les cuisines, à Moscou, chez les gens qui se rencontrent.
Mais justement, pour commencer, j'ai ouvert le site de la première agence de nouvelles qui s'appelle RIA Novosti. Et donc, ils ont leurs nouvelles les plus actuelles qu'ils annoncent à la première page de leur site, à la page d'accueil de leur site. Et ce que je vois, donc, il s'agit toujours de la situation avec Donetsk, à Donbass. Donc, c'est la première nouvelle. Ensuite, on parle du Covid, toujours de ce nombre de malades qu'on a quotidiennement. L'histoire de l'exploration cosmique, parce que notre chef Rogozin, qui préside cette agence cosmique, donc il propose d'utiliser une base française de Guyane, Kourou, ça s'appelle à mon avis. Donc voilà, ensuite, là encore, on discute toujours l'augmentation des prix, du chauffage ou autre, et donc une amende que le tribunal a infligée à l'agence Google. Voilà, donc je n'ai trouvé... C'est le site officiel d'une agence de presse.
Oui, voilà,
donc,
mais au quotidien...
J'ai trouvé une seule nouvelle sur Lugansk et Donetsk.
Ouais. Oui, et notamment, j'imagine,
les bombardements.
Voilà. C'est un lien avec le vote de la Douma sur le fait que la Douma demande au président Poutine la reconnaissance des deux républiques. C'est ça.
Oui,
c'est
oui.
Ça. Oui, mais au quotidien, là, dans la discussion avec les voisins, est-ce que c'est quelque chose qui revient sur le tapis, cette question de l'Ukraine?
Oui, on en parle petit à petit, mais je veux dire que la première chose qui revient, c'est que maintenant l'Ukraine n'est plus la nôtre, hein, parce que le président Zelensky, lui, donc, il a plutôt...
Qui est le président ukrainien, voilà.
Le président ukrainien Zelensky, il veut toujours faire une alliance avec les USA, et donc il voudrait bien intégrer l'OTAN. C'est la première chose, et la deuxième chose qui revient dans les conversations au quotidien, c'est que justement, c'est toujours les ressources, le gaz, donc c'est ça un peu. Mais je ne suis pas très sûre que les Russes en parlent trop souvent de la situation avec l'Ukraine, parce que pour nous, l'Ukraine, c'est quelque chose d'emblématique. C'est une des anciennes républiques soviétiques les plus proches de la Russie. Oui. Historiquement, ça a toujours été comme ça. On a une histoire de presque 400 ans, et encore plus à l'époque de la Russie de Kiev, par exemple.
Oui, oui.
Donc, pour nous, les Ukrainiens, c'est comme les Russes, quoi. Ce sont nos frères.
Et ce sont vos frères, mais si la Russie venait
donc,
à les...
C'est pour ça que...
Si la Russie venait à les envahir... Vika, je me posais la question de savoir... Quelle serait l'attitude des Russes si les armées de Poutine venaient à envahir l'Ukraine et à tuer ce que vous appelez vos frères? Quelle serait la réaction en interne?
Mais pour l'instant, plutôt autour de moi, les gens partagent l'opinion officielle qui dit qu'on ne veut pas provoquer une guerre avec l'Ukraine, que c'était juste les manœuvres militaires de la Russie, justement parce que juste pour montrer qu'on a nos forces, qu'on est fort, qu'on a un pays fort. Donc, c'est pour ça que... donc, c'est l'opinion, quoi. C'est l'opinion de tous les Russes, je pense.
Oui, ce que vous voulez dire, c'est que pour les Russes, il n'est pas envisageable, pour le moment, c'est une représentation des Occidentaux, cette idée d'une guerre avec une invasion de l'Ukraine par la Bélarusse ou par la Russie, c'est ça?
Oui, oui, oui.
Est-ce qu'on parle également...
Je pense qu'on envisage mal cette opportunité,
cette éventualité.
Cette variante.
Ouais, mais...
Est-ce qu'on... Ouais, cette éventualité, oui.
Est-ce qu'on parle dans le pays de ce que l'Ukraine dénonce par ailleurs, c'est-à-dire de vastes opérations de cyberattaque contre les sites internet de certains ministères et des banques du pays?
Là, j'ai pas entendu parler de ça, franchement.
D'accord.
C'est pas... Je n'ai aucune nouvelle. Peut-être il faut que je me documente sur les sites français ou étrangers, mais sur les sites russes, j'ai rien trouvé là-dessus, franchement.
Florence veut vous poser une question, Vika.
Oui, bonjour. Je voulais vous demander comment vous voyez les choses par rapport à des arguments qui existent en Europe, indiquant que Poutine, bon, son idée, c'est de reconstituer l'ancienne URSS. Et c'est qu'à chaque fois, il agit quand il pense que les Occidentaux sont en situation de faiblesse. Et également, un argument moi, que je vois qui ressort très souvent en Europe, c'est que la situation de Poutine ou du pays à l'heure actuelle n'est pas très bonne à cause de la crise du Covid, etc. Et que finalement, ces manœuvres, enfin bon, ça serait une stratégie mais qui est classique dans tous les pays d'essayer de se refaire une santé... sur l'extérieur par rapport à une situation interne qui ne serait pas très bonne. Donc j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus et savoir si c'est une réalité partielle ou pas du tout. Merci.
J'ai pas vraiment compris la question, mais...
Est-ce que, je vais peut-être la reformuler, oui, c'est est-ce que là, les gesticulations de Poutine, pour le dire comme ça, hein, enfin, vu de l'Occident, hein, c'est-à-dire les menaces, les stratégies agressives vis-à-vis de l'Occident, est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière une façon de ressouder le pays qui est confronté à un certain nombre de problèmes, quels qu'ils soient économiques, hein, et qui refonde un peu une identité qui est une identité nationale de la Grande Russie et en utilisant l'extérieur pour ressouder à l'intérieur, voilà. D'une certaine manière. Voilà, c'est ça, me semble-t-il, la question.
Mais si... Oui. Oui. En ce qui concerne les actes agressifs, la manière de dire niette de taper de la chaussure, vous êtes habitué.
Oui.
Hein, ça a commencé Nikita Khrouchtchev.
Qui était un Ukrainien, d'ailleurs.
voilà, tout à fait, exactement. En 1954, c'est lui qui a offert la Crimée à l'Ukraine.
Oui.
Mais je veux dire que ce que vous percevez aujourd'hui, donc je peux le dire, cette remontée du patriotisme qu'on vit maintenant, ça n'a pas commencé aujourd'hui. À mon avis, ça a commencé avec quand Vladimir Poutine a remplacé Dmitri Medvedev au poste du président. Ça a commencé à ce moment-là. Parce que au pays, vous avez en Russie, vous avez toutes sortes de d'événements autour du 9 mai, donc la victoire de l'Union soviétique dans la Seconde Guerre mondiale,
la grande victoire de la grande guerre patriotique, c'est ça.
La grande guerre patriotique que nous appelons voilà. Donc ensuite, dans tous les au secondaire, vous avez toutes sortes d'événements. C'est donc l'amour du pays revient petit à petit dans la conscience collective. Je veux dire, et peut-être parce que vous ne les petits gestes qu'on vit au quotidien, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, puisque c'est pas un événement médiatique, c'est la vie de tous les jours. Par contre, ici, quand Poutine dit que voilà, je voudrais bien que l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie restent toujours ensemble comme un pays, comme un peuple uni. Donc c'est pour ça que c'est un événement médiatique, alors c'est pour ça que vous en parlez, mais pour nous c'est évident. On a toujours été ensemble, les Biélorusses, les Russes et les Ukrainiens. Vous prenez l'immeuble où je vis, c'est un tiers de Russes, un tiers d'Ukrainiens, un tiers de Biélorusses, et ça a toujours été comme ça.
Vika, une question. Vous parlez de la Biélorussie. Alors, la Biélorussie pourrait s'avérer très rapidement un autre foyer de tension avec ce qui se profile, c'est-à-dire un possible redéploiement d'armes nucléaires en Biélorussie, puisque jusque-là, le territoire était sanctuarisé sur le plan de l'arme nucléaire, mais le projet de nouvelle constitution biélorusse, avec un président aux ordres de Poutine, et qui ne se maintient d'ailleurs que par la force et que grâce à Poutine qui a sauté sur l'occasion, ce projet de nouvelle constitution prévoit l'abandon du statut non nucléaire. Donc si il est voté, et il sera voté bien évidemment, est-ce que vous pensez que Poutine, la Russie, vont implanter des armes nucléaires en Biélorussie ?
Ça me paraît bien possible.
Bon, mais alors, je pense que c'est un peu la stratégie, voilà, non, semble-t-il.
La réponse est claire.
Je pense que oui.
Oui. D'accord. Peut-être on va arrêter. J'avais une question parce qu'on venait de parler des Jeux Olympiques vus depuis la France. Les Jeux Olympiques vus depuis la Russie. Est-ce que les gens en parlent? Est-ce qu'on voit ça à la télé? Comment ils vivent ça? Est-ce qu'ils sont attentifs à ce qui se passe?
Oui, mais écoute, on aime toujours les Jeux Olympiques parce que on a beaucoup de bons sportifs, surtout les skieurs, les biathloniens, les patineurs. Mais au XXIe siècle, avec ces histoires de dopage, on ne peut jamais être sûr de rien. On a tous regardé cette compétition du patinage artistique où notre Kamila Valieva a remporté la première place. Et en fait, on l'a accusée par la suite d'être dopée. Donc les prises de sang ont été positives. Et donc tout le pays discute cette histoire, comment ça a pu arriver que justement elle... Parce que c'est le sport national, le patinage artistique, c'est le sport national, le ski de fond. Donc c'est pour ça qu'on aime ça et on en discute. Même si on n'y connaît rien, moi par exemple, je connais rien du tout au sport, mais ça me fait plaisir de regarder les compétitions au niveau international, justement parce que ça satisfait bien mon sentiment de l'amour du pays où je vis.
Vika Nikolaeva, merci d'avoir été avec nous. Alors, j'ai quand même une question pour terminer. Quand est-ce qu'on vous retrouve en studio? Vous êtes déjà venu sur Esprit Occitanie. Quand est-ce que vous revenez?
Dès que vous allez reconnaître Spoutnik. Et oui. Je me suis Spoutnik qui est moi.
Puisque c'est le vaccin qui est le vaccin russe.
D'accord, pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Et qui, pour le moment, n'est pas reconnu pour pouvoir rentrer sur le territoire.
Ni le chinois, d'ailleurs.
À part en Hongrie, où on peut rentrer avec Spoutnik, je crois. Mais,
non, là, pour l'instant.
Pour le moment, en France, c'est difficile.
Bon, mais dès que ce détail sera réglé, vous savez... Vous savez que vous êtes la très bienvenue sur ce plateau. On aura plaisir à vous retrouver. Merci, Vika Nikolaeva. Et à bientôt.
Beaucoup. Merci. Au revoir et bonne journée, bonne émission.
Merci, au revoir. Voilà. Bien, écoutez, les nouvelles de la Russie sont toujours un peu décapantes. On s'aperçoit quand même que les points de vue...
sont très décalés.
Voilà,
quand même.
Sont très décalés.
Oui, et chaque fois que Vika intervient, ouais. je précise, parce que c'est quand même important... c'est que là, on a le discours de quelqu'un qui connaît bien l'Occident et qui habite Moscou. Hein. Voilà, quand on parle à Russie, je le dis chaque fois parce qu'il faut contextualiser. C'est un continent. On parle d'un pays qui n'est pas un pays comme la France. Hein. La France, c'est l'Ukraine. Hein. En gros, c'est le même type de pays. Là, on a un continent, donc, avec 8 fuseaux horaires.
Avec un PIB qui est à peu près égal à celui d'Espagne, quand même.
Voilà. Ouais. Voilà. Alors, bon, c'est donc une réalité un peu... Donc là, on a le discours d'une urbaine fortement occidentalisée.
Universitaire.
Universitaire, donc, autrement dit, quand on va en Sibérie, quand on va dans l'Oural, hein, à Tcheliabinsk, on ne va pas entendre le même genre de discours. Et le discours patriotique sera d'ailleurs certainement beaucoup plus fort que celui qu'on entend là.
Ouais.
Bien, passons à un autre sujet un peu plus franco-français, quoique d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a des voitures, 3000 voitures qui sont parties en convoi vers Paris, qui voulaient aller après à Bruxelles, à Strasbourg, on ne sait plus trop, alors ça s'est appelé... ça s'est autoproclamé un convoi de la liberté. Bon, on peut se poser beaucoup de questions. On a copié un peu nos amis canadiens, puisque les Canadiens ont paralysé Ottawa. Ça a fait des émules dans d'autres pays et on a convergé vers Paris. Alors 3000 véhicules, c'est totalement dérisoire. Il faut savoir quand même qu'à Ottawa, ils ont essayé de recommencer, que là, la population est descendue dans la rue pour les virer par la peau des fesses, pour ne pas employer un autre terme. Certains sont, une centaine de véhicules à peu près, parvenus à rejoindre les Champs-Élysées, dont on connaît l'attrait touristique. Ils ont été évacués, comme d'habitude, à coups de manu militari et coups de gaz lacrymogène. Ça, on sait très bien le faire. Oui. Au Canada, le blocage routier et notamment le fameux pont qui permet de relier les États-Unis a été débloqué par la police aussi. Alors ce mouvement français rassemblait, un peu à l'instar des autres pays d'ailleurs, des opposants au pass vaccinal, des anti-vax, des égoïstes, comme dirait le président de la République.
Qu'il faut emmerder.
Il rassemblait des complotistes de tous bords. Et puis au milieu de ça, il y avait quand même des gens qui avaient des revendications sociales. Alors, je ne sais pas quelles étaient leurs proportions, mais il est certain qu'en France, il y a quand même des gens qui vivent mal, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens à qui on a vendu beaucoup de choses et qui aujourd'hui se rendent compte que ce que l'on avait promis n'arrive pas et qui ont une vie sociale extrêmement compliquée. Et donc ceux-là, par contre, je pense qu'il faudrait peut-être mieux les écouter que les autres hurluberlus. Sur cette question, Jean-François ?
Oui, bien sûr que tout le monde a en tête quand on parle de ce qui se passe autour du convoi des libertés ou de la liberté, je ne sais plus.
On se demande d'ailleurs de quelle liberté il s'agit.
Oui, mais...
J'ai remarqué d'ailleurs que les paysans chinois, pour faire un lien avec les Jeux olympiques qui avaient été virés du site qu'ils exploitaient, sur lequel ils vivaient depuis toujours, ils n'ont pas fait de convoi vers Pékin.
Je n'ai pas compris
pourquoi.
Ça, c'est de l'humour que je partage moyennement. Je partage l'humour, mais ce n'est pas l'argumentation. Je dois avouer que m'aligner sur le standard des libertés que représente la Chine, c'est certainement pas un bon critère.
D'ailleurs,
on ne peut pas discuter de ce qui se passe ici.
On ne peut pas rapprocher Chine et liberté. Ce sont deux mots totalement antinomiques.
Voilà, et on ne peut pas se targuer du fait qu'on soit moins contraint qu'en Chine pour se satisfaire de la situation dans laquelle on est. Voilà, mais c'est vrai que les Chinois ne s'amusent pas à ce genre de choses-là. On a bien sûr en tête la question des gilets jaunes. C'est évident quand on parle. Tout le monde et les journalistes dont on peut se dire à des moments donnés d'ailleurs s'ils ne sont pas dans la... Alors, je ne veux pas faire du Bourdieu à la petite semaine, mais dans la fonction circulaire.
Peut-être du Lacan pour remplacer notre ami Larousse.
Ah non, ça, je ne saurais remplacer Pierre, surtout en lacanisme, mais que je salue au passage, chaleureusement d'ailleurs.
On salue tous.
Mais je pense que c'est... Et alors, les journalistes, c'est intéressant. Les journalistes se sont extrêmement intéressés à quelque chose dont la proportion ne justifie pas le fait qu'on s'y intéresse. Parce que c'est vrai que si un certain ce qui s'est passé à Montréal, c'est loupé. Mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose là qui est... Qui cherche, qui est un indicateur d'autre chose. Hein. C'est donc, l'événement n'est que symboliquement quelque chose qui se passe derrière hein, et qui, de mon point de vue, il ne faut pas lâcher en termes d'analyse ou de compréhension, qui est que, et j'ai envie de redire ce que j'avais dit sur la question qui était la question des Gilets jaunes. Alors, il y a eu une analyse qui a été faite que je trouve intéressante, en gros, qui est de dire, ce sont encore une fois des gens qui ont bien fait tout ce qu'on leur a dit de faire. Hein. Hein, ce sont des gens qui ont appliqué toutes les règles, qui n'ont pas fait de politique, hein, qui ne font pas de politique, hein, et qui d'ailleurs ne sont pas du tout rompus au jeu qui est le jeu. Je ne parle pas de l'extrême droite qui est présente, mais l'extrême droite est présente dans tous les mouvements sociaux depuis qu'elle existe. Hein, elle est, je veux dire. Comme les charognards suivent les troupeaux. Et pas que l'extrême droite. Et à des moments donnés, surtout en période électorale, ce qui ne rend pas les gens toujours très intelligents, des mouvements politiques qui essayent de récupérer d'une manière ou d'une autre ce qui se passe. Mais là-dedans, on a des citoyennes et des citoyens, individuellement et collectivement. Je dis collectivement parce que ce sont des gens qui redécouvrent, y compris le collectif, à cette occasion-là, complètement éclatés qu'ils étaient dans les pratiques individuelles qu'on leur avait assignées, et qui sont, alors je vais être un peu grossier, mais ça c'est le terme qui a été évoqué, qui sont les toujours baisés. Hein, c'est-à-dire qu'avec cette impression d'en permanence avoir joué le jeu, tenté de jouer le jeu, et qui là ne se retrouvent pas, ne se retrouvent pas représentés, ne se retrouvent pas... reconnus à la place à laquelle ils ont été mis, ne se retrouvent pas reconnus à la mesure des efforts qu'ils font, bref, et vis-à-vis desquels il n'y a aujourd'hui plus aucune médiation politique qui permette de réguler cette situation-là, ce qui produit d'un côté de la violence et de l'autre côté du spectacle, de la violence sur le terrain, du spectacle dans les médias.
Florent Ginesti.
Oui, je partage un peu cette analyse. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir le caractère hétéroclite des personnes qui participent à ce mouvement, bon, qui est spontané, même s'il est calqué sur le modèle canadien, mais enfin, l'origine du mouvement canadien n'est pas tout à fait le même. Donc, il y a à la fois, c'est vrai, des complotistes, des gens qui sont juste contre le pass sanitaire, et quand même on retrouve une proportion non négligeable de ceux qui faisaient partie des personnes que vous avez qualifiées des gilets jaunes. Donc ils sont quand même des personnes qui sont souvent pas les plus défavorisées de la société complètement, mais ce que vous dites, ce sont des personnes qui sont souvent des classes moyennes, mais qui ont du mal à joindre les deux bouts, mais qui travaillent, enfin qui sont quand même insérées dans la société, mais qui sont finalement, en rupture avec le modèle dans lequel on est, je pense qu'on avait parlé avec les Gilets jaunes, mais je crois que c'est vrai pour ce mouvement aussi, c'est la question de ce qu'on appelle la France périphérique. Il y a quand même une réalité, c'est-à-dire il y a une réalité de la manière de vivre, des modes de vie, une réalité culturelle. Il y a, comment il s'appelle, Jérôme Fourquet, qui fait des analyses qui sont assez intéressantes là-dessus, bon, qui a travaillé sur les multiples sécessions françaises et qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps qui analyse ça, c'est-à-dire la culture des classes moyennes françaises, classes moyennes basses, et qui considère que le modèle culturel dans lequel ils sont n'a rien à voir avec le modèle dominant. Donc il y a une question culturelle, il y a une question de défiance totale par rapport aux élites à Paris, mais la méfiance à l'égard des élites parisiennes, elle n'est pas que dans ce type de population, mais au système, oui, mais c'est ça, au système lui-même. Et alors le problème auquel on est confronté, c'est que c'est vrai, comme ils ne sont pas Ils s'auto-organisent. Il y a effectivement personne qui est médiateur. Et l'ennui dans cette affaire, c'est que les seuls qui sont un peu médiateurs, c'est tous ceux qui sont détenants de ces thèses complotistes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... C'est frappant avec l'histoire du virus, là, et du vaccin. Parce que moi, je connais pas mal de gens autour de moi qui sont des gens très différents et qui sont hostiles au vaccin. Et c'est très difficile de discuter avec eux parce qu'ils ont, à chaque fois, ils font référence à des analyses qui ont été faites par des scientifiques, par tout un tas de personnes. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vraiment un certain niveau intellectuel, hein, qui développent ces thèses-là, et ça imbibe toutes ces personnes qui, comme elles ne se reconnaissent pas dans le système institutionnel, sont en opposition au système, culturellement ne se sentent pas représentées, sont finalement, de près ou de loin, la proie de ces thèses-là. Et comme il n'y a plus que les partis politiques, alors là, moi, je vais en venir un petit peu à ma chapelle, c'est-à-dire que la gauche, là-dessus, sur ces populations-là, les a totalement délaissées. Parce que c'est une population
qui... Ce n'est plus une chapelle, c'est un minuscule prieuré.
Voilà, bon...
Époque, on parlait de cabine téléphonique.
Voilà, bon, ben, ça se restreint de plus en plus. Et en tout cas, cette population-là... C'était à la gauche de faire un travail et d'apporter un certain nombre de réponses. Or, ça n'est pas le cas. D'ailleurs, on se rappelle très bien qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, les mouvements de gauche ont regardé ça avec un grand mépris. C'est-à-dire que c'est... qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? C'est
des ploucs. Agrémenté de pas mal de violences, y compris dans le discours.
Oui, c'est des ploucs, c'est des... ils sont pas comme nous. Et puis, c'est-à-dire que moi, je pense que là-dedans, il y a quand même une très forte question culturelle. C'est-à-dire que la gauche culturelle, elle est très, très éloignée de ces personnes-là. Et quelque part, il y a une forme de mépris. Et je pense que ces gens-là qui se rebellent d'une certaine manière, il y a aussi cette envie de lutter contre ce mépris qui est quand même très inhérent à la société française, que l'on voit à tous les niveaux, et le mépris d'une certaine élite par rapport à ces populations-là, et aussi de la gauche qui n'a pas fait son travail et qui a eu finalement une attitude notamment culturelle très méprisante à l'égard de ceux auxquels elle devait s'adresser. Et on se retrouve avec des personnes qui effectivement se mobilisent dans des conditions un peu erratiques, avec des choses qui peuvent déraper, sans organisation. Et les seuls qui finalement travaillent ça, ce sont quand même, entre guillemets, les extrêmes. C'est-à-dire que c'est soit Mélenchon, soit, encore que bon, qualifier Mélenchon d'extrême, on peut le discuter.
Il est gazeux, mais pas extrême.
Il n'est pas peut-être et, pas... Et le Front National.
Et il ne manipule pas forcément.
Il ne manipule pas...
pour le coup, l'extrême
droite. Mais sur la question des libertés, par exemple, parce qu'il s'intitule « Convoi des libertés ». Alors tout le monde dit « supposé liberté », etc. Mais il y a quand même ça derrière. Les gens, il y a des gens qui ne sont pas que des complotistes, qui disent « le pass sanitaire, c'est une atteinte aux libertés ». Et là, je boucle.
Et ils ont raison.
Mais je suis d'accord avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la Chine. C'est-à-dire qu'on a quand même mis en place, à l'occasion de cette histoire de Covid, un système de surveillance absolument incroyable. Donc ces gens-là, ceux qui ne sont pas forcément complotistes, ils réfléchissent sur ces questions de liberté.
C'est dommage qu'ils ne se penchent pas sur d'autres libertés qui sont bafouées, comme la liberté de la presse, qui est quand même... on voit ce qui se passe avec M. Bolloré, qui truste tout. Et il y a d'autres libertés aussi qui sont largement entamées, qui font de nous une démocratie en recul. On aurait aimé aussi entendre sur ces questions-là.
Ça y est aussi. Hein, moi, je veux dire, moi, j'ai suivi un peu... Alors, je ne suis pas, comme on dit, gilet jaune. Je ne sais pas ce que ça veut dire être gilet jaune, à part se foutre un gilet jaune. Mais c'est sociopolitiquement, c'est assez difficile à partir de là d'en tirer des conclusions. Mais moi, j'ai entendu un discours, d'ailleurs, qui... Alors, pas qu'un discours, et des actes, parce que ce n'est pas qu'un discours, ce sont des actes. Hein, ce serait un discours, on serait déjà dans la socialisation du conflit. Et là, pour le moment, c'est des actes. Quand on casse la gueule à des journalistes dans une manifestation, c'est bien qu'on dénonce d'une certaine manière, de manière pas intelligente et inadmissible, la question de la presse.
Et puis, ce n'est pas ce qui se passe actuellement et les nominations au Conseil constitutionnel. Oui.
Ah,
des copains et des copines, pour ne pas dire des coquins, qui vont rapprocher la base
suspicion
de Paris et de certaines gens qu'on qualifie de ce mot élite, ce qui m'a toujours étonné parce qu'ils sont quand même loin d'être des élites, notamment intellectuelles.
Ça dépend de l'idée que se fait des élites.
Tout à fait. Bien, écoutez, nous n'épuiserons pas cette question et nous y reviendrons dans les prochaines sessions de Ça va mieux, bien évidemment. L'heure a sonné de nos dernières rubriques, tout à fait. Alors, je commence par ouvrir celle des brèves. Moi, je voulais vous parler de faire l'écho d'un article qui est paru dans le Canard Enchaîné, un entrefilé, on va dire, qui nous explique qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui dérapent, notamment du côté des États républicains. Alors, on nous dit un prix Nobel noir, Toni Morrison, dont les œuvres sont interdites dans les écoles au Kansas et en Virginie, est menacé d'être jeté au feu, voyez où on en est. Un prix Pulitzer juif, Art Spiegelman, qui voit sa BD culte sur la Shoah,
que je recommande chaudement,
oui, traduite en 30 langues, interdite dans une école du Tennessee en raison d'éléments inappropriés, entre guillemets inappropriés. Mmh. Donc les États du Sud, qui sont quand même notablement sous l'influence du Parti républicain, qui s'est perdu depuis, ça ne date pas de M. Trump, ça fait plus de 30 ans déjà qu'il dérape joyeusement. On combat le lobby LGBT, mais ça on rejoint un peu le combat de M. Zemmour. Il paraît d'ailleurs que M. Trump et M. Zemmour se seraient parlé.
Oui.
Ça
a
dû être un sommet.
Le danger serait l'islamo-gauchisme et le wokisme, bien entendu.
Oui,
alors wokisme, qu'il se passe des choses comme ça par ailleurs.
Voilà, le wokisme, on pourra en parler aussi. Donc, on a longtemps dit que ce qui se passe aux États-Unis arrive 20 ans après chez nous. Très franchement, j'espère quand même que ce genre de choses ne se produira pas dans notre beau pays. Une brève, Jean-François.
Oui, ça commence à se faire dans les municipalités du Rassemblement national, l'épuration des bibliothèques, hein, au passage. Voilà. Juste une brève, je viens d'apprendre, alors on va quitter les Jeux Olympiques d'hiver, on va parler des prochains Jeux Olympiques en France, je viens d'apprendre qu'il en coûte à un département 150 000 euros pour le passage de la flamme olympique. Voilà.
150 000 euros.
Ah bon, tenez-vous bien.
Qu'est-ce qu'on
la chaise,
paye avec ça?
Alors, je ne sais pas, toujours est-il. Alors,
moi, je la ramène pour 10 fois.
Voilà, alors, il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, au jour où nous parlons, il y a 8 départements qui ont refusé le passage de la parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Hein, je pense à la Creuse ou des départements comme ça. Et je trouve que c'est quand même assez emblématique de ce que sont devenus les Jeux Olympiques. Hein, 150 000 euros pour voir passer une flamme et pouvoir passer dans les médias. Voilà, je pense.
Oui, c'est assez.
Alors, sans faire un jeu de mots, je pense que ce prix du passage de la flamme olympique est éclairant.
il est très en forme, Florence. Une brève.
Moi, c'est pas une brève, c'est une information. Vous en avez peut-être parlé, j'en sais rien, qui concerne à la fois la santé de manière générale, mais qui est une découverte qui a été faite à Toulouse concernant le cancer. Je ne sais pas si vous en avez parlé de ça. C'est le Alors, l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale de l'Université Paul Sabatier, qui travaille sur le cancer, enfin les manières de traiter le cancer, et sur l'immunothérapie. Et ils ont découvert, enfin, quand on fait l'immunothérapie, c'est les lymphocytes qui vont dans la cellule cancéreuse la tuer. Et ils ont trouvé des vaisseaux particuliers. Alors bon, moi, je ne suis pas technicienne dans la matière, qui s'appelle HEV. Des vaisseaux qui seraient des vecteurs facilitateurs pour permettre aux lymphocytes d'arriver dans la cellule et de faire leur travail de manière plus efficace. Alors, c'est tout un groupe de chercheurs international, mais qui est quand même basé ici à Toulouse, qui est quand même très, très intéressant. Ils sont même arrivés à faire une vidéo en prenant des souris où on voit apparemment les lymphocytes qui s'introduisent dans la cellule cancéreuse. Enfin, moi, c'est une grande. Oui, enfin, c'est un peu étrange, hein, mais
oui.
En tout cas, bon, on peut dire que c'est quand même très intéressant de souligner la recherche toulousaine et un espoir pour tous ceux qui sont malades du cancer et puis peut-être des possibilités de soins beaucoup plus importants. Voilà, c'est une note d'optimisme.
Croisons les doigts. Alors, ce serait presque un ça va mieux. Et donc, ça va mieux. Je vais ouvrir la rubrique. Alors, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux pour certains, pas pour tout le monde. Ça va surtout mieux pour ceux qui allaient déjà bien.
Oui,
c'est toujours comme ça.
C'est vrai,
et notamment, je pense aux banques dont les cours ne cessent de monter. Le Crédit Agricole, plus 12%. Le BNP Paribas, plus 6,80%. La Société Générale, quasiment 20%. Et les bénéfices de ces banques qui font des résultats absolument fabuleux. Donc, on va quand même faire rêver un peu. BNP Paribas, 9,5 milliards d'euros de bénéfices. Mmh. Le Crédit Agricole, 5,8. Et la Société Générale, 5,6. Alors, des résultats qui sont quand même surtout atteints grâce aux frais bancaires, dont on ne sait pas trop ce qu'il y a dessous, sous des prétextes divers et variés, on vous ponctionne. La hausse de ces frais bancaires ramène beaucoup de sous, donc vous voyez que finalement, le monde n'est pas si mal. Il y en a qui continuent à se gaver, ça va très bien pour eux.
D'autant que, comme disait Marcel Dassault, même avec des millions, on ne fait jamais que 3 repas par jour.
Absolument, on a beau bien manger, on ne mange qu'une fois. Jean-François, ça va mieux?
Oui, alors, comme je suis un verbe, je vous propose un ça va mieux à tiroir, deux parties. Première, ça va mieux.
C'est commode, si je puis dire.
C'est commode, tout à fait.
Parce que c'est à tiroir.
Bien sûr. C'est pas pour meubler. On va revenir sur Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, en avril, aura 70 ans et va prendre sa retraite. Ça, c'est un ça va mieux. Ça va mieux. Peut-être pour Vincent Bolloré, mais ça va surtout... Ça pourrait aller mieux, ça c'est le premier tiroir, premier niveau du tiroir. À 70 ans, Vincent Bolloré, bien entendu, va quand même rester extrêmement vigilant sur le fonctionnement de son propre empire qu'il a délégué à ses enfants. Alors, le deuxième ça va mieux, c'est que enfin, des syndicats, des associations, des personnalités... en ont assez de la manière dont les médias français sont gangrénés par le système que le système Bolloré. Il y a un collectif qui s'appelle Stop Bolloré, qui vient de se créer, qui vient d'engager toute une série de procédures à différents niveaux contre, effectivement, le système Bolloré, qui va depuis les manières de fonctionner économiquement jusqu'à des plaintes concernant des discours qui sont tenus sur les chaînes par la tête de gondole qui est candidate aux élections, et je parle bien entendu Zemmour, et un travail qui est un travail de vigilance systématique qui va être mis en place concernant effectivement l'état des médias, encore une fois gangrénés par le système Bolloré.
Eh bien, nous les soutiendrons et nous adhérerons bien évidemment. Florence, ça veut mieux ? Non ?
Ça va mieux, compris dans cette découverte. C'était les deux, voilà. Allez, c'était bref et ça va mieux.
Très vite, je fais
un package.
Voilà, merci Florence. Très vite, le conseil culturel. Ben, moi, je vais vous recommander un livre qui rejoint un peu ce qu'on vient de dire, Connemara de Nicolas Mathieu. Au Actes Sud, vous savez, Nicolas Mathieu, qui est un de nos anciens prix Goncourt et qui a écrit dans Connemara, il décrit toute une frange de population qui est un peu proche de celle dont on a parlé dans notre dernier sujet. C'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien raconté. Ce sont des personnages qui sont dans l'Est de la France, qui est sa région fétiche, et qui sont en quête de bonheur et de désillusions professionnelles et personnelles. C'est la vie de tous les jours, c'est la vie des gens simples, c'est la vie des gens comme nous. Donc lisez Connemara, Nicolas Mathieu, Actes Sud. Jean-François ?
Oui, alors, juste un dernier, ça va mieux au passage.
Ça
va mieux, circule mieux à Toulouse aujourd'hui, puisque hier, effectivement, la présence d'un président de la République toujours aussi près du peuple faisait qu'on était entouré.
De toute façon, chaque fois qu'il vient à Toulouse, moi, j'ai même dû annuler des émissions, puisqu'on n'arrivait même pas à accéder à la radio, c'est-à-dire chez nous.
Donc, nous sommes vraiment dans une démocratie splendide, ça va mieux quand le président n'est pas là. Je vous conseille la lecture d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Terre d'humanité, un cœur pour Imo. Imo, c'est qui ? C'est Imo Lucano, qui est le maire d'une bourgade italienne.
Riace.
Il y a un film qui va avec ça, qui présente cette expérience remarquable d'accueil de migrants dans cette ville-là. Ce Imo Lucano est l'objet d'une condamnation.
Très lourde.
Et financière. 500 000 euros de condamnation à l'appel de l'extrême droite et d'une justice italienne qu'on peut dire elle aussi largement gangrénée. Voilà. Alors ce livre s'appelle Terre d'humanité, un cœur pour Imo. Il est disponible à la librairie Floury Frères à Toulouse.
Et peut-être pas qu'elle d'ailleurs.
Non, voilà, mais je dis que là par exemple, vous pouvez le trouver, vous le trouverez à d'autres endroits. Et sachez que c'est un collectif qui écrit ça, et que les frais, les ventes du livre serviront à couvrir les frais de justice de Imo Lucano.
Florence, pour terminer.
Oui, dans le prolongement des débats qu'on a eus, il y a le livre qui vient de sortir là, de Mathieu Slama, qui s'appelle « Adieu la liberté », et qui, je trouve, est très intéressant, parce que c'est un essayiste, un jeune essayiste d'ailleurs, et qui analyse de manière très intéressante toutes ces questions de société disciplinaire dans laquelle nous sombrons peu à peu, et qui questionne donc nos démocraties. Et l'envie des citoyens d'être protégés au point d'en perdre la liberté. Voilà.
Merci Avika, merci Florence, merci Jean-François. Comme d'habitude, vous êtes parfait.
Merci beaucoup.
C'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne avec à la réalisation Tiphaine Lemaine, que nous remercions.
Merci,
vous retrouverez le podcast de cette émission et tous les autres podcasts, bien sûr, sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Belle journée à toutes et à tous.